Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oui, résistance dans notre foi, parce que de nos jours, on ne peut plus avoir un discours trop mièvre. Ce n'est vraiment plus possible. Aujourd'hui, nous fêtons la solennité de Saint-Denis, céphalophore, c'est-à-dire qu'il a porté sa tête lorsqu'il a été martyrisé, lui qui avait été envoyé par le pape Saint Clément, lui qui, parce que nous sommes fidèles aux plus belles traditions, a été converti par la prédication très profonde et allant jusqu'à la constatation des faits les plus simples de la création, de l'être, du mouvement, de ce saint Paul qui, à l'aéropage, c'est-à-dire au lieu de réunion des sages d'Athènes, a pu développer ainsi, parler de cette philosophie naturelle, de cette existence de Dieu, mais qui a été écartée lorsqu'il a parlé de la résurrection de l'homme qui doit apporter le salut. Or, cette résurrection de cet homme qui doit apporter le salut au monde avant le jugement dernier, lui qui parlait il y a 2000 ans, saint Paul, eh bien, nous a donné saint Denis. Saint Denis qui est un grec et qui vient en Gaule, qui vient à Lutèce pour donner sa vie, pour sur l'ordre du souverain pontife, du successeur de Pierre, parler à des hommes, à des femmes qui sont dans la superstition de cette Gaule du deuxième siècle de notre ère. Et nous devons bien comprendre comment nous pourrions actuellement accueillir un saint Denis ou un saint Eugène qui le connut sur la fin. Lui-même martyr, lui-même décapité. Que ferions-nous d'un saint Denis aujourd'hui? Qu'est-ce que ferait saint Denis aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il ferait d'un point de vue de la transmission du don de la foi? Et qu'est-ce qu'il ferait d'un point de vue de notre ville, de notre pays même, dans ce rôle providentiel qu'ont les évêques ou les papes, en ce jour où le pape Paul VI est déclaré saint à Rome. Mais tout d'abord, qu'est-ce que saint Denis pourrait nous dire aujourd'hui, comme je le disais, de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Saint Denis aujourd'hui, eh bien, il serait évêque de Paris, il serait le chef de la communauté chrétienne. Il aurait reçu la révélation en approfondissant les siècles et des siècles de grâce qui ont été données à un peuple, le peuple juif. Qu'est-ce que le peuple juif? C'est un peuple qui a été mis à part par Dieu pour être entouré de miracles, de prophètes, afin qu'il garde la foi en un Dieu créateur unique, par rapport au paganisme et à l'idolâtrie qui faisait des forces naturelles la source même de toute puissance et qui voulait sur cette terre avoir uniquement le pouvoir et les plaisirs. Et c'est ainsi que le peuple juif, qui avait comme tous les hommes les mêmes tendances par rapport au pouvoir et au plaisir, a été sollicité et entouré. Saint Denis, qui est grec, l'a su, l'a compris. Il a compris comme ces rois mages, comme ces rois de petites villes d'Orient qui sont venus auprès de notre Seigneur, après avoir scruté les Écritures juives, il a compris ce rôle providentiel du peuple juif. Et lui, qui n'était pas juif, il a reçu le sacerdoce du Messie des Juifs. Il est devenu prêtre, évêque, pour annoncer cette bonne nouvelle que Dieu, depuis des siècles, à préparer le monde à sa venue et qu'il s'est fait homme, que Dieu est Père et que sa parole éternelle, qu'il appelle son Fils, s'est fait l'un d'entre nous. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les missionnaires viennent dans des pays, ils doivent d'abord cerner si ces peuples croient dans l'invisible, croient dans la création, croient en Dieu, et ensuite leur dire comment se comporter dans leur morale et dans leurs actions. Un des premiers obstacles d'un missionnaire, c'est cette vie courante, cette violence qu'il peut y avoir dans une société païenne, mais aussi la difficulté du mariage et de la répudiation, de la séparation des hommes et des femmes, et du fait que les hommes, par l'excès d'autorité masculine, vont écarter leur épouse, les mères de leurs enfants, en prendre d'autres, et tout cela au nom d'un véritable amour humain, les missionnaires sont contraints de faire tout un travail, non seulement de remonter à l'existence de Dieu, mais ensuite de dire comment Dieu nous a demandé de vivre. C'est la raison pour laquelle, si Saint-Denis venait maintenant à Paris en 2018, mais qu'est-ce qu'il trouverait? Il trouverait d'abord de nombreux célibataires, paradoxalement. Des hommes et des femmes qui, ou parce qu'ils ont un désir de vie morale, de vie authentique et de réciprocité dans leur épouse, ont du mal à passer le pas et se trouvent dans la difficulté de trouver une épouse chrétienne. Vous en avez d'autres qui ne désirent pas se marier parce qu'ils ont une vie pleine, qu'ils sont dans la foi, qu'ils font des bonnes œuvres, qui ont une vie qui se donne et dont le tempérament n'est pas ouvert au mariage. Il y en a d'autres qui, eux, n'ont pas la foi et qui ne sont pas mariés et qui ne se marient pas par indifférence, par insouciance, aussi par indécision. Et comment leur parler? Comment Saint-Denis aujourd'hui aborderait ce peuple de lutèce? Voyez-vous, cela est très concret parce que cela va au-delà de la foi. Lorsque nous voyons tous ces migrants ou toutes ces personnes issues de l'immigration qui sont là depuis une génération, deux générations, trois générations pour des musulmans et pour des générations plus anciennes qui sont des chrétiens, qui sont des Italiens, qui sont des Portugais, qui sont des membres de pays autour de nous en France, eh bien, comment un Saint-Denis leur donnerait actuellement la foi chrétienne à ceux qui viennent ici et qui sont un peu perdus et à qui on ne demande même pas les 10 commandements? Et c'est là, cette société particulière, liquide, comme disent certains ethnologues, certains sociologues, dont l'archevêque Michel Aupetit fait la mention. Et lui-même, parce qu'il a été médecin, parce qu'il a été en banlieue à Colombes pendant des décennies, il connaît bien ce peuple. Il a été vicaire général, curé vicaire général à Paris, et il a la lourde responsabilité de succéder à un Saint-Denis. Il a la lourde responsabilité de prendre cet héritage que Sainte-Geneviève a préservé par sa force d'âme, cette femme exceptionnelle. Alors nous-mêmes, qu'est-ce que nous demandons à notre évêque, à celui qui est successeur des apôtres, à ceux qui ont reçu cette onction particulière, d'agir non seulement au nom du Christ lorsqu'il célèbre la Sainte Messe et qu'il consacre l'hostie et le précieux sang, à ceux qui donnent le pardon des péchés. Aujourd'hui, vous avez 3 confesseurs. Enfin, je pense que l'abbé Libora a laissé ces deux confesseurs qui sont nouveaux, un de passage, vous pouvez tout dire. Eh bien, ces évêques dont nous avons besoin sont ceux qui vont nous redonner pas seulement la morale. Et en ce moment, en synode sur la jeunesse, si le pape François nous a demandé de prier le chapelet, mais nous le prions très volontiers, surtout en ce mois du rosaire. Eh bien, si le pape François nous a demandé de prier le chapelet chaque jour, de prier le Sancte Michael Arcangeli, Saint Michel Archange, le Subtum Presidium, sous votre protection, ancienne prière antienne à la Vierge Marie, c'est bien parce que, de manière tout à fait étrange, parce que nous vivons dans le monde, nous allons accepter la vie hors mariage, la vie du mariage à l'essai, du concubinage, parce que la jeunesse ne sait plus vivre, que nous ne sommes plus là pour les chaperonner, pour les diriger dans une vraie vie, dans un véritable engagement, parce que en plus, dans cette société qui est si blessée, des hommes, des femmes sont invités à suivre leurs inclinations, même dans des difficultés incroyables, au lieu de les encourager à la chasteté. Parce que ce mot même de maîtrise, de sensualité, de chasteté n'est plus compris. Mais pourtant, c'est notre nature. Et c'est cette même nature que saint Paul a exposée aux sages grecs d'Athènes. Alors qu'est-ce qu'il ferait saint Paul à Paris aujourd'hui? Qu'est-ce que ferait saint Denis aujourd'hui? Qu'est-ce que Monseigneur Michel Aupetit va faire aujourd'hui? Eh bien d'abord, comme je l'ai dit 100 fois, il nous faut garder la foi en l'incarnation. On ne peut pas aborder le combat moral, spirituel, sur notre moralité, sur notre sexualité, puisqu'il faut dire le mot, si nous n'avons pas confiance dans l'existence d'un Dieu qui nous aime, si nous n'avons pas confiance dans l'incarnation, si nous ne croyons pas qu'il y a une vie après la mort, et si nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité, alors il n'y aura aucune morale familiale, conjugale, tout ce que vous voulez. Tout passe d'abord par la foi. Et je ne suis pas protestant. Mais les protestants eux-mêmes croient en l'incarnation, croient dans la grâce et les mérites infinis du Vendredi Saint. Ils ont été découragés par l'importance du péché, et la doctrine protestante relativise la grâce, relativise les bonnes œuvres. Mais de nos jours, nous voyons bien que nous avons besoin tout d'abord, en effet, de la foi, de croire que Dieu est amour, que Dieu s'est fait homme, et qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité, qu'il a fait la joie de la Vierge Marie lorsqu'il s'est présenté vivant à elle, puis ensuite aux saintes femmes et aux apôtres. Et nous sommes héritiers de cette foi, de ces événements historiques, et de cette foi et cette espérance surnaturelle dans la vie éternelle, où nous voulons retrouver les êtres chers qui nous ont précédés. C'est la raison pour laquelle les évêques des 5e, 7e, 8e siècle, 10e siècle, tenaient la France, tenaient des villes d'Europe, parce que quand le pouvoir politique s'écroule, c'est ceux qui ont la foi et l'espérance qui peuvent redonner de la vie à cette société. Alors demandons bien aujourd'hui à saint Denis cette force et ce courage, cette foi, lorsque nous allons nous approcher de notre Seigneur dans la Sainte Communion, avec à nos côtés la Vierge Marie, saint Joseph, les saints de toute notre histoire de France et du monde, tous ceux qui ont souffert, tous ceux qui ont été bons, heureux et bienveillants, et nos saints anges gardiens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.